Histoire et mémoire, une émission proposée par la Société des Amis du Musée de Dreux. La Société des Amis du Musée de Dreux a pour but de promouvoir le musée, d'enrichir ses collections, ainsi que la préservation du patrimoine. Des conférences ont lieu régulièrement.
Bonjour Émilie, bonjour aux auditeurs de Radio Grand Ciel. Je vais vous parler aujourd'hui d'Émile Buret. Je suis Eric Lenude, je suis membre de la Société des Amis du Musée de Dreux. Et cette personnalité m'intéresse à plusieurs titres. J'ai participé au colloque Maurice Violette dans les années 80 à faire découvrir, redécouvrir bien sûr le talent d'éditorialiste de Maurice Violette. Et je pense que Émile Buret est quelqu'un à Dreux qui a laissé peut-être assez peu de souvenirs, sinon une rue dans le quartier des Feuilleux. À cela, on peut y voir quelques différentes raisons. Le fait que rien n'ait été écrit sur lui, sinon quelques pages par Charles Marié, l'historien local. Mais c'est quelqu'un qui gagne à être redécouvert parce que depuis ont été publiés des témoignages de première main et des sources redécouvertes. Dans cette seconde partie de l'émission, nous allons aborder la partie peut-être la plus importante de la vie d'Émile Buret. Nous avions bien sûr évoqué ses années de formation, celle d'un jeune socialiste Dreyfusard avant la guerre de 14-18. Et on va voir éclore là le véritable talent journalistique d'Émile Buret pendant l'entre-deux-guerres, période pendant laquelle il va devenir l'une des plumes les plus importantes, les plus lues de la presse de la Troisième République. La carrière journalistique de Buret prend vraiment son essor entre deux guerres. Il va être dans ce premier temps, dans les années 20, éditorialiste de deux journaux qui ne lui appartiennent pas, L'Éclair et L'Avenir, et puis dans les années 30, d'un journal qui est son journal, dont il est majoritairement propriétaire, dans lequel, évidemment, quotidiennement, il livre son éditorial. Alors, il prend la direction de L'Éclair en 1919, hein, il quitte le journal de la France de Julia, et on peut peut-être rappeler rapidement encore ces différents thèmes, ces différents chevaux de bataille politiques. Lutte contre les socialistes internationalistes, hein, qui sont désormais les communistes. Lutte contre l'Action française. La guerre au cosmopolitisme, à l'étatisme. Toutes ces mesures sont celles qui sont soutenues par la droite du bloc national qui va gagner les élections dans un premier temps et les perdre en 1924 contre le cartel des gauches. Cela ne l'empêche pas de concéder qu'il partage avec l'Action française la dénonciation du pacifisme. Le pacifisme, pour lui, ça appelle la guerre à la démagogie bolcheviste. C'est l'allié, ce pacifisme, de la ploutocratie cosmopolite. Alors là, il faut se remettre à l'époque avec un vocabulaire qui était très fort. Hein. Il se présentera toujours en disant qu'il était tolérant, mais il utilise quand même des mots qui sont très forts et qui sont ceux de l'époque. Hein. Ces hommes de presse ne s'épargnent pas entre eux. Toujours est-il qu'en 22, il fête la remise de sa Légion d'honneur et il reste autour de lui assez peu d'amis de jeunesse. Il reste Anatole de Monzy, mais les socialistes ne sont pas là, peu d'hommes de gauche, surtout des hommes de centre-droit. Ses éditoriaux, donc, l'ancrent à droite. Buret est devenu antisocialiste, anticommuniste. Il combat le cartel de gauche. Il se montre particulièrement intransigeant quant à la position à tenir face à l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un régime dictatorial pour lui, dont les desseins criminels sont d'éliminer la France, et parce que l'Union soviétique aurait juré, selon lui, la perte de la France. Et contrairement à son ami de Monzy, il ne souhaite pas, pour l'instant, dans ces années-là, de relations diplomatiques avec l'URSS. Le journal dans lequel, L'Éclair, dans lequel il écrivait depuis 1919, est racheté par un autre qui s'appelle L'Avenir, mais on garde Buret, et c'est Buret qui écrit désormais l'article, l'éditorial de L'Avenir. Il en devient le rédacteur en chef. Ça va être des années un petit peu plus difficiles pour lui. Les relations sont houleuses avec André-François Poncet quant à la ligne politique du journal. Il quittera définitivement le journal en 1929. Il collabore particulièrement, c'est peut-être aussi un peu alimentaire, à La Petite Gironde, à la Gazette du Franc, et il renoncera à diriger l'Ami du Peuple du Soir. Alors juste une petite parenthèse pour l'Ami du Peuple du Soir, c'est un journal qui était qui devait être lancé par Coty. Coty, c'était un homme étrange, c'est un parfumeur qui, d'abord, il n'est pas sous son vrai nom, il ne s'appelle pas Coty. C'est un parfumeur qui a beaucoup d'argent et qui entend devenir un magnat de la presse et quelqu'un de très très influent. Et au dernier moment, alors que tout est prêt et que le premier numéro devrait sortir, Buret va refuser. Et là, on peut penser avec le recul que Buret a eu raison. Il faut néanmoins qu'il trouve une situation qui lui convienne. Et une situation qui lui convienne, ça serait pour lui, Buret, de l'indépendance. Hein. Il sort un petit peu meurtri de cette expérience de l'avenir. Alors depuis longtemps, Clémenceau pressait Buret de créer un journal qui serait un journal bien à lui et dans lequel il pourrait s'exprimer librement, sans souci des attaques ou des critiques, des entraves financières que ses articles pourraient soulever. Ce sera un journal, L'Ordre, dont le premier numéro paraît en 1929. Alors il est allé bien sûr voir Clémenceau en lui disant « L'Ordre, c'est une bonne chose » et Clémenceau, à sa grande surprise, lui dit « Oui, mais c'est une bonne chose. Pourquoi ?» Parce que L'Ordre, c'était le titre d'un journal bonapartiste et Clémenceau lui dit « Bah oui, il faut dans la République de l'Ordre. Bon, ce sera l'Ordre. » Et là, ça va être la tribune de Buret pendant une dizaine d'années jusqu'en 1940. Le tirage est modeste, mais l'essentiel réside dans la qualité dans des éditos de Buret qui sont lus, qui sont disséqués dans les hautes sphères politiques, les élus, les ministres et tous les milieux restreints qui sont proches du pouvoir. Comment le classer sur l'échiquier politique? Toujours à droite. Bravache, lui, Buret affirme qu'en ce qui concerne, on ne le verra jamais osciller de gauche à la droite, ce qu'il a déjà fait, mais toujours aller devant lui. Il a quand même des prises de position, je vais en citer quelques-unes qui sont un petit peu sévères. On voit que les hommes de presse de cette époque ne s'épargnaient pas. Aristide Briand, qu'il aime beaucoup pourtant, devient l'homme qui se noie. Pourquoi ? Parce qu'Aristide Briand est pacifiste. Hériot, qui a interpellé Tardieu, et Tardieu est soutenu par Buret, voilà ce que déclare Buret. Hériot démontre que quand il se mêle d'être un sot, un homme cultivé va au zénith de la bêtise. Et des expressions comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes qui font peur aujourd'hui concernant l'angevin de la Ligue des droits de l'homme. Ouvrez les guillemets, la Ligue des droits de l'homme est un danger national. J'ai écrit un jour qu'un imbécile sans culture n'était pas un imbécile complet. Je ne comptais pas Monsieur Langevin, mais je ne doute point qu'il soit très cultivé. La Ligue des droits de l'homme est une organisation confusionniste, superfétatoire, qui devrait bien consentir à mourir. Ça peut paraître paradoxal, lui qui en 98 était de ceux qui ont bien sûr porté sur les fonts baptismaux, si on peut dire, la Ligue des droits de l'homme lors de l'affaire Dreyfus. Lors de la crise des années 30 et de la montée des périls, je passerai rapidement pour dire que, bien entendu, il s'oppose à l'agitation de rue, l'agitation qui est provoquée par les ligues, et il devient farouchement germanophobe. C'est quelque chose qui va le suivre tout le reste de sa carrière. Par rapport aux autres personnes de droite, il va se démarquer, il tient bon sur l'antisémitisme. Il va désapprouver le discours antisémite de Xavier Vallat contre Blum, et parce qu'il tient ce discours et parce qu'il s'oppose à cette agitation des ligues, il va perdre parfois ses actionnaires. Alors, on peut parler rapidement de ses actionnaires et du problème de financement. C'est le problème de financement de tous les journaux de l'époque. Buret, on peut le lui reprocher, certains le lui reprochent déjà à l'époque, n'est pas regardant sur les fonds. Alors évidemment, c'est le sidérurgiste de Vindel, c'est, bon, il avait échappé à Coty, mais il n'échappe pas à Ernest Billet, Ernest Mercier, et des financements de partis qui sont tous des partis de droite. À tel point que Daladier lui supprimera un temps les versements des fonds secrets, ce dont Buret lui en vaudra pendant très longtemps. On va aller rapidement maintenant, on va se retrouver en 40 et voir ce qu'il advient de notre nuit de Buret. Le désastre de 40, Buret a 64 ans et il s'aborde le journal. Il part aux États-Unis en passant par Bordeaux. Il tombe gravement malade. Cette maladie, ben, elle a un nom, c'est de la dépression. C'est certainement une décompensation. En France, il est toujours vilipendé par l'extrême droite, où Léon Daudet le fait passer pour un alcoolique, pour quelqu'un qui est interné dans un asile d'aliénés new-yorkais, et sa mort va même être annoncée à tort. Buret est en réalité victime donc, de cette dépression nerveuse, et on peut imaginer hein, l'amertume de la défaite, le sentiment d'isolement dans un pays étranger, l'inactivité forcée à laquelle il est contraint, tous ces facteurs l'ont profondément atteint. Il va se rétablir, Et là encore, c'est la plume qui va le sauver. Il va fonder un hebdomadaire gaulliste avec un certain Henri Torres, avec lequel il va partager la ligne éditoriale pendant 2 ans. Il écrit également un ouvrage sur Ernest Renan et l'Allemagne, un recueil de textes qu'il va commenter et qui sera édité à New York en 1945. Mais il est déjà rentré en France dès 1944. Lors de ce retour en France, il va tenter de relancer l'Ordre, qui va paraître jusqu'en avril 1947, et puis l'Ordre de Paris, qui est un hebdomadaire, mais ces deux journaux, ces deux parutions ne fonctionnent pas, et elles s'achèvent faute de moyens financiers. Il est gaulliste, on pourrait dire en 1945, même si dès 1947, il reprend son indépendance intellectuelle et ses distances avec le général lors de la création du RPF. Il est toujours guidé par sa germanophobie, sa crainte du réarmement allemand. Et assez curieusement, on va le voir, dans ces années-là, compagnon de route du Parti communiste. Et même s'il dénonce l'esclavage rouge en Corée, il se montre discret lors du coup de force de Prague. Lui qui vilipendait la Ligue des droits de l'homme, on le retrouve en 1949, membre du comité d'honneur du MRAP, Mouvement contre le racisme et pour la paix. Il collabore à la revue Droit et Liberté. Ça ne lui fait pas oublier ce sentiment d'isolement, ce malaise qu'il ressent à ne plus écrire, à ne plus être leader d'opinion par ses éditos. Et il se retrouve de nouveau inactif, comme lors de son arrivée à New York. La dépression le rattrape, le conduit de clinique en maison de repos. Et tout cela précède une opération douloureuse. Il s'éteint à Saint-Mandé en 1952. En conclusion, Buré lui-même se définissait comment ? Il se définissait comme républicain, démocrate, marxiste convaincu, tolérant, aïe, et libéral, patriote raisonné. On pourrait dire patriote quand même confirmé, pas dire forcené, mais quand même. Et chacun se fera une opinion à l'aune des lectures de ses éditos. On peut regretter d'ailleurs de ne pas avoir la collection de ses articles dans nos archives municipales. Il a eu aussi la réputation d'un homme qui aimait les femmes, la bonne chère et l'argent. Une réputation qu'un de ses collaborateurs, Bernard Houphet, nuance en centrant le propos sur son professionnalisme et en soulignant que son bureau directorial avait été un lieu bruyant où il accueillait volontiers les personnalités, les journalistes, les quémandeurs, tout en se concentrant sur l'écriture de son éditorial. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons conserver comme idée ? Peut-être c'est celle de l'image d'un Drouet d'origine, aux prises avec les principales crises du XXe siècle, un homme qui ne se résignait pas à être un simple spectateur des événements majeurs traversés, mais qui, par son intelligence, son talent, son activité intense, par ses éditos quotidiens, voulut en quelque sorte être une boussole pour ses contemporains. Buret est à ce titre un des témoins importants, privilégiés de la Troisième République, à lire, relire, redécouvrir.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourrie.
Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Voilà, alors après, pour le fait qu'il soit droué, ben, étant jeune, Buret revenait à Dreux. Et alors, on le retrouve place Rotrou. Place Rotrou, vous aviez le théâtre, qu'on voit encore sur certaines vieilles cartes postales, et puis vous aviez le café Réaubourg, juste à côté. Et là, c'est là où ses copains socialistes se réunissaient. Alors, Buret, lui, faisait ses allers-retours entre Dreux et Paris. Donc, à Dreux, il faisait venir ses amis de Paris, et puis il a laissé deux, trois pages intéressantes sur les discussions qui pouvaient animer la vie politique à Dreux au théâtre, lorsqu'il y avait des réunions politiques électorales. Voilà, et c'est lui, je suppose, donc, qui a fait, je l'ai déjà dit, qui faisait venir Monzy ou Jean Longuet dans notre ville. Concernant Maurice Violette, autre homme de presse, qui lui aussi s'était astreint à un édito quotidien, au moins, on aurait pu se demander quelles étaient les relations. Elles sont détestables. Elles sont détestables. Je vais vous en citer quelques exemples. Buret présente la vie politique à Dreux telle qu'il l'a ressentie, telle qu'il l'a vécue. Et voilà le jugement qu'il porte sur Violette. Violette, c'est un prêt-à-tout, ce Maurice Violette. Il est socialiste en Touraine, il s'était déjà présenté en Touraine, il se dit radical socialiste à Dreux et ne négligea aucun des moyens propres, si j'ose m'exprimer, à assurer son élection. Député, il se poussa au pouvoir en menaçant les ministres en exercice. C'est un spécialiste de l'interpellation-chantage, ancien gouverneur, ancien sénateur, il règne par la terreur au Parlement comme à la mairie de Dreux. Et je lis, dans les yeux des petits bourgeois radicaux de ma ville natale, qui subissent les rigueurs de cet aigre et implacable procureur, le regret qu'ils ont du souriant et conciliant Louis Thériet. Il y a d'autres exemples, comme ça. Buret vilipende encore Maurice Violette lorsque Maurice Violette devient gouverneur général de l'Algérie. C'est pour lui complètement intolérable. Il dit avoir fréquenté à ce moment-là Maurice Violette qui venait quémander. Mais le ministre en poste ne souhaitant pas nommer gouverneur général Maurice Violette, eh bien Maurice Violette serait parti furieux du bureau de Buret en disant « Mais puisque c'est cela, je vais interpeller le gouvernement ». Effectivement, le gouvernement est tombé. Et le Premier ministre suivant, qui était président du Conseil, Paul Painlevé, a nommé Violette gouverneur général de l'Algérie.